Oui, pour une. Désolée, pour une. Alors, je reprends. Vous êtes donc avec les Apatrides Anonymes sur choc.ca, votre rendez-vous bimensuel pour une revue en règle. Oui, une revue en règle des actualités nationales et internationales sur les questions qui concernent l'immigration, le racisme, l'extrême droite, les abus policiers, les enjeux autochtones, etc. Marie-Ève au micro pour cette édition du 21 septembre. Bien sûr, en compagnie de Simon en studio.
Salut Marie-Ève.
Qui sera donc en studio pour les premiers segments de l'émission.
Ouais.
Et Mathieu à la console pour le moment.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir Mathieu, ça va bien?
Pas pire. On y va.
Le menu d'aujourd'hui, je vous le dis, s'annonce gargantuesque, oui, avec des nouvelles de la Libye, de la frontière italo-française et du Japon, mais aussi de l'Arabie saoudite et de l'Éthiopie avec Simon.
Oui.
Tu vas aussi couvrir les actualités autochtones d'ici, n'est-ce pas?
Oui, un peu plus tard dans l'émission.
Parfait.
Il y avait ça, il y avait de l'actualité.
Oui, il y avait
masse, là,
pas
vraiment.
Mal, hein, ouais. Mathieu et moi, ben, on va parler de questions migratoires d'ici, mais aussi d'Amérique latine, plus particulièrement du Brésil pour ma part. Et de quel pays de l'hémisphère sud tu vas nous parler, Mathieu?
De Guatemala et puis du Chili.
Parfait. Okay, hein? On te rejoint donc plus tard dans l'émission. Et évidemment, ben, fidèle à notre habitude et parce que les raisons de se révolter sont nombreuses, on va terminer l'émission avec l'agenda militant. Alors, on commence ça maintenant! Alors que la Libye se remet à peine de la tempête Daniel, dont le bilan, toujours provisoire évidemment, fait état de plus de 11 300 morts et plus de 10 000 disparus, un Éthiopien de 21 ans est mort devant les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à Tripoli. Ça, c'était une semaine avant que Daniel frappe le pays. Ce qui arrive, c'est que depuis le début de juillet, environ 150 migrants campent devant le HCR pour réclamer un abri, une évacuation de Libye vers un pays sûr et une réinstallation. Comme Mujahid Haji, c'est le jeune homme en question, ce sont surtout des migrants subsahariens, plus particulièrement des exilés de la guerre au Soudan. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui ont absolument nulle part où aller et qui se font constamment soit battre, pourchasser ou déloger des endroits où ils se trouvent par la police, des agences de sécurité et aussi par des groupes criminels. Une bonne partie sont pourtant enregistrés par le HCA comme réfugiés, avec donc un statut officiel, mais malgré tout, il n'y a aucune aide pour le logement, ni pour la scolarisation des enfants ou les soins médicaux. Mujahid Haji est arrivé fin 2021 dans le pays et a rapidement rejoint le campement devant le HCA à Tripoli. À cette époque-là, il y avait déjà des centaines de personnes qui campaient là, exactement pour les mêmes raisons, mais au bout de 3 mois, ils ont été violemment expulsés par les autorités libyennes et envoyés en prison. Et certains, comme Mujahid Haji, ont réussi à s'enfuir et à échapper à la détention. En mars 2023, fatigué d'attendre une protection du HCR, Mujahid Haji a tenté de rejoindre l'Italie par la mer, mais il a été intercepté par les gardes-côtes libyens et renvoyé à la prison d'Abu Issa, à l'ouest du pays, où il a subi la torture, en plus d'être privé de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Ses conditions de détention très dures ont provoqué une grave malnutrition et il a fini par contracter la tuberculose en prison. Mujahid Haji a passé 5 mois à la prison d'Abu Issa, où il a fini, comme je disais, c'est ça, à contracter la tuberculose. Son état s'est tellement détérioré qu'il a été jeté à la rue après sa libération du centre. Et selon l'ONG Refugees in Libya, le jeune homme a tenté plusieurs fois de contacter le HCR pour bénéficier de soins. Et donc, après des heures d'attente pour une assistance médicale, Mujahid a succombé à sa maladie. Refugees in Libya accuse l'ONU de ne pas être intervenu pour porter secours à cet homme-là. De son côté, le HCR s'est dit attristé par sa mort et assure avoir tenté de lui fournir une aide médicale. Je cite la réponse de Refugees in Libya quant à la réponse du HCR. Ils disent donc que l'histoire de Mujahid n'est qu'une parmi tant d'autres de migrants et de réfugiés qui souffrent en Libye. Des institutions comme le HCR, chargés d'aider, de protéger et d'abriter des individus comme Mujahid, ont échoué dans leur mandat. Alors, y a des morts qui, semble-t-il, comptent moins que d'autres. Et c'est le cas aussi de centaines de morts éthiopiens aux mains des gardes frontières saoudiennes, n'est-ce pas, Simon?
Exactement. Est-ce que c'est... en fait, c'est une nouvelle qui est passée un peu inaperçue, je dirais, pour l'ampleur et la gravité de la situation. Donc, on est en Arabie saoudite, comme tu dis, à la frontière avec le Yémen, sur ce qu'on appelle la route migratoire de l'Est. Il y a Human Rights Watch qui affirme dans un tout nouveau rapport qu'entre mars 2022 et juin 2023, il y a eu des centaines, peut-être même des milliers de migrants assassinés par les gardes frontières saoudiens. Les victimes sont principalement d'origine éthiopienne et les survivants sont souvent très, très gravement blessés. On peut consulter le rapport qui s'intitule « They fired on us like rain » sur hrw.org, donc humanrightswatch.org. Vous pourrez constater que l'analyse qui a été faite est très rigoureuse, basée sur des croisements de témoignages, de vidéos, de photos, d'images satellites, et que finalement, les accusations sont vraiment sérieuses. Les modes d'opération tirés à bout portant, on pousserait même parfois l'odieux jusqu'à demander aux migrants sur quelle partie de leur corps ils préfèrent qu'on tire. On utilise parfois des engins explosifs, ce qui charcute les corps et rend les identifications et les décomptes pratiquement impossibles. Ouais. On procède aussi à des fusillades de masse, jusqu'à 30 personnes tuées simultanément dans ce que les témoins appellent des pluies de balles, du titre du rapport, là, des ouais. « Fired on us like... »
Like rain.
Like rain. La route de l'Est, on en a peu parlé, je pense, aux apatrides. Je vais remettre un peu en contexte. On a souvent parlé, par contre, de la crise politique et humanitaire ouais. au Yémen, qui est une des plus sévères des dernières années, causée par le blocus et l'occupation du pays par la coalition dirigée par le gouvernement saoudien. Donc, les migrants, je disais qu'ils sont principalement éthiopiens, mais aussi on trouve leurs voisins de la Corne d'Afrique, donc parfois somaliens, érythréens et djiboutiens. Ils traversent la mer Rouge sur environ 80 à 150 kilomètres, ou en son point le plus court, le détroit de Bab el-Mandeb, mais ça reste une traversée qui est difficile et assez meurtrière. De l'autre côté, c'est le Yémen qui, évidemment, à cause de la situation actuelle, ça fait déjà 8 ans que c'est l'occupation, le blocus au Yémen. Donc, c'est pas la destination qui est souhaitée par les migrants, évidemment. Et c'est un endroit qui est dangereux pour eux et elles, notamment avec des risques liés à la traite humaine, un peu comme ce que tu mentionnais en Libye, mm-hmm. avec des réseaux de criminels réputés très violents et bien organisés depuis une bonne quinzaine d'années. Depuis le début de 2023, on estime environ 100 000 le nombre de traversées clandestines en mer Rouge. Les migrants cherchent à quitter le Yémen le plus rapidement possible et aimeraient plutôt rejoindre des économies fortes où il y a beaucoup d'emplois, comme justement l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou le Qatar. Mais peu importe l'objectif, on n'a pratiquement pas le choix de passer par le Yémen et l'Arabie saoudite, qui est vraiment le pays le plus grand territoire et le plus central de la péninsule arabique. Suite à la publication du très accablant rapport de Human Rights Watch, les grandes capitales Paris, Londres, Bruxelles, Washington ont été très lentes à réagir, avec des propos plutôt laconiques du genre « bien que ces allégations soient graves, nous souhaitons qu'une enquête impartiale soit menée ». Donc, pas vraiment d'indignation, on pèse ces mots, mais il faut dire que Riyad est le principal partenaire stratégique et économique des grandes puissances dans la région. Donc le gouvernement saoudien soutient de son côté que Human Rights Watch tient des propos infondés et diffamatoires, comme si Human Rights Watch faisait dans les fake news normalement.
Hein. Ben non, c'est ça.
On peut faire confiance au gouvernement de Riyad aussi. Il y a quand même enquête conjointe Éthiopie-Arabie saoudite qui a été ouverte fin août. Elle suit son cours actuellement, évidemment, on vous revient là-dessus lorsque les conclusions seront publiées. Autre rapport dont je voulais vous parler, publié début septembre par Amnesty International, celui-là, on reste dans la même région, sur les atrocités commises par l'armée érythréenne au Tigré après la signature de l'accord de paix. Les atrocités dont on parle sont surtout des viols de femmes réduites à l'esclavage et des exécutions de civils, hommes et femmes. Rapport très accablant aussi, même si moins de victimes possibles qu'au Yémen, mais qui pour l'instant n'a pas mené une enquête en bonne et due forme. Les gouvernements érythréens et éthiopiens font de la résistance malgré les appels répétés pour l'ouverture d'une enquête. Amnesty International n'hésite pas à parler de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, donc on verra peut-être si éventuellement la Cour pénale pourrait être saisie de ce dossier-là. Je termine rapidement avec l'Érythrée, qui a une diaspora assez importante en Amérique du Nord et en Europe. On vous avait parlé il y a quelques semaines d'une bousculade entre partisans et opposants au gouvernement érythréen, ici à Toronto. C'était dans un festival culturel, on pourrait dire ça. Incident quand même assez grave. Il y avait eu plusieurs blessés transportés à l'hôpital. Il y a eu un incident semblable à Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne, la semaine passée, mais d'une ampleur beaucoup plus considérable, carrément une émeute, des dizaines de blessés et 200 arrestations.
Oh, OK.
Ça s'est passé un peu comme à Toronto, dans un festival organisé par des supporters du président érythréen Isaias Afwerki. Donc forcément, ça choque les membres de la diaspora qui ont énormément souffert de ce régime très fermé et oppressif. On le désigne parfois comme la Corée du Nord africaine. Ils jugent que ce genre de festival, c'est de la propagande et de la provocation. Ils n'hésitent pas à l'exprimer, de là les confrontations.
Mm.
Donc ça s'est passé à Stuttgart. On parlait de Toronto aussi. Ça s'est aussi produit dans d'autres villes allemandes. Ça s'est produit à Tel Aviv. Mais d'une telle ampleur à Stuttgart, ça ne s'était encore jamais vu. Donc, il faudrait peut-être se questionner sur les permis qui sont accordés pour tenir ce genre d'événement. Je mentionnais la Corée du Nord tantôt, je ne suis pas certain, mais si Pyongyang voulait tenir un événement semblable au centre-ville de Montréal, ça me semble plutôt improbable. Donc, peut-être au niveau des fonctionnaires qui traitent ces demandes de permis, il y a peut-être un manque de formation. Hein? On pourrait faire des tutoriels sur les régimes.
À la ville, ouais.
Ben oui. Ça, je ne me prononce pas là-dessus, mais des beaux tutoriels sur c'est qui les régimes oppressifs, puis est-ce qu'on peut vraiment leur donner une vitrine pour vanter.
Ou en tout cas, faire confiance, accorder une confiance aveugle à.
Oui, c'est ça. Ben, qu'il y ait au moins une certaine forme d'analyse, peut-être une grille d'évaluation pour dire, ben non, tel régime, on ne lui permet pas d'avoir une vitrine pour vanter ses mérites.
C'est faux mérites.
Voilà.
Ben, je te remercie, Simon. Alors, on va écouter quelques notes de musique et. On vous revient tout de suite après. On se déplace maintenant à la frontière franco-italienne où les arrivées records de personnes migrantes en Italie par la Méditerranée depuis le mois d'août qu'on a vu en masse là, ces derniers jours, là, les images de Lampedusa, par exemple, eh bien, ces arrivées massives se traduisent par une augmentation des traversées irrégulières aussi vers la France par les Alpes. C'est que, ben, comme vous en doutez, une fois arrivés en Italie, de nombreuses migrantes qui continuent leur route plus au nord, soit en direction de l'Allemagne, de la France ou du Royaume-Uni. Et donc, parmi ces personnes-là qui tentent de franchir les Alpes, on retrouve aussi de plus en plus de mineurs. Mmh. Par exemple, en l'espace d'une semaine, à la fin août, début septembre, il y a deux camions qui ont été interceptés, un près de Nice et l'autre près de Marseille, où se cachaient respectivement 12 et 9 mineurs. Mais ça, c'est les derniers qui ont été interceptés, mais il y en a eu d'autres avant ça aussi. Et selon l'association Tous citoyens, la découverte de mineurs dans un camion, ben c'est un nouveau phénomène dans la région, puisqu'habituellement, les personnes qui passent viennent à pied ou par train. Et toujours selon l'association, c'est une conséquence directe des contrôles de plus en plus durs qui sont mis en place dans la région et que plusieurs qualifient avec raison de militarisation de la frontière. Là, on parle de renforts policiers, militaires et douaniers sur la route, dans les trains et dans les gares. Il y a également survol de la région par des drones. Et selon le Figaro, cette Border Force mobilise chaque jour, là, environ entre 400 et 450 personnes. Et ce qui est inquiétant, c'est le traitement, en fait, qui est réservé à ces mineurs interceptés par les autorités. Dans un communiqué conjoint publié le 25 août, il y a une quinzaine d'ONG, dont Médecins sans frontières, la CIMAD ou la Ligue des droits de l'homme, qui ont dénoncé des traitements inadmissibles. C'est-à-dire que des mineurs seraient gardés pendant jusqu'à 3 jours dans les locaux de la police aux frontières, parfois jusqu'à 75 à la fois dans un espace, ma foi, exigu et dans des conditions sanitaires déplorables aussi, c'est-à-dire en pleine canicule, souvent dormant à même le sol.
Des mineurs isolés?
Mineurs isolés, ben, il y en a qui sont non accompagnés, mais pas nécessairement. Okay. Les associations dénoncent aussi des refoulements illégaux de mineurs vers l'Italie. Je cite le communiqué, c'est à l'aide sociale à l'enfance de procéder à leur évaluation de minorité, non aux forces de l'ordre, parce qu'ils doivent évaluer si la personne est réellement mineure ou pas. Or, ces jeunes sont refoulés par la police sans évaluation préalable. Les autorités, elles, se défendent en disant qu'elles n'arrivent plus à faire face aux arrivées de migrants, plus précisément à la prise en charge des mineurs isolés dont le nombre aurait doublé. Selon les chiffres là, des autorités, entre le 1er janvier et le 16 août, ce sont 3 673 jeunes qui ont fait l'objet d'un placement dans un foyer du département contre 1793 à la même période en 2022. Donc, ça a triplé. La majorité sont originaires de Guinée, de Côte d'Ivoire, de Tunisie ou du Soudan. Alors, c'est quelque chose qu'on va surveiller parce que les mineurs, ben, ça se trouve être quand même parmi les plus vulnérables, en fait, des personnes migrantes. Sur ce, on va aller en musique. On va aller se défouler un petit peu beaucoup, en écoutant du Black Punk Hardcore. C'est le groupe bostonais Move BHC avec la pièce Imperialist Reign, qui est tirée de leur premier LP, en fait, qui s'intitule Black Radical Love, qui est paru au mois d'août et qui figure à la 18e position du palmarès international de choc. Et j'espère vivement qu'ils vont venir à Montréal bientôt. C'était Move BHC avec la pièce Imperialist Reign.
Ça bûche pas pire, ça ressemble bûche, un peu à Zulu, là, ouais, le groupe de Los Angeles, ouais. Là, qu'on a vu il n'y a pas longtemps,
exactement.
Qu'on a fait jouer à l'émission. Ouais.
Eh bien, vous aurez deviné que vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. C'est le genre de musique qu'on met quand même régulièrement. Enfin,
c'était dans le palmarès, d'ailleurs.
Oui, 18e position. Alors, on te retrouve, Mathieu, pas tout de suite.
Oh, OK, excuse-moi.
Pour sa revue des actualités latino-américaines, moi, je vous donne une nouvelle du Brésil, où début septembre, le président Lula a annoncé la reconnaissance de deux autres nouveaux territoires autochtones. Il s'agit d'une part de l'Acapuri de Sima, qui est un territoire de 19 000 hectares, c'est-à-dire 190 km², où quelques 500 Kokamas habitent. Et aussi, l'autre territoire, c'est le Rio Gregorio, qui est un territoire beaucoup plus important de 187 944 territoires. Donc là, on parle de presque 2000 km² où vivent 2000 membres des communautés Katutkina et Yawanawi. Cette reconnaissance-là va accorder une protection juridique à ces deux territoires qui va les outiller aussi contre les invasions illégales à la fois de bûcherons, de chercheurs d'or et d'éleveurs de bétail. Parce que oui, ça existe encore, des chercheurs d'or aujourd'hui.
Des orpailleurs, oui.
Voilà. Le président Lula fait cette annonce-là le 5 septembre, qui correspond à la fois à l'anniversaire de l'État brésilien d'Amazonas depuis 1850 et de la forêt amazonienne comme telle qu'on célèbre là, depuis 2007. L'annonce s'inscrit aussi dans l'engagement du président de reconnaître le plus grand nombre de communautés possibles. Et donc, depuis le début de son mandat, ben là, ça fait... il a signé des décrets qui reconnaissent 8 territoires autochtones jusqu'à maintenant. Il faut savoir que le président, là, il est un petit peu pressé. Hein,
c'est
pour,
ça, hein? Ouais.
Parce qu'il y a un projet de loi là, qui vise à restreindre les reconnaissances de territoires autochtones. C'est un texte qui est promu notamment par le lobby agricole du pays. Donc, ce projet de loi-là récolte de plus en plus d'appui au sein du Congrès brésilien. Bon, les Autochtones ont quand même une petite chance là, parce que on peut presque dire que la Cour suprême est de leur côté, puisque là, elle devrait prochainement rejeter ce qu'on appelle le cadre temporel.
Ça a été rejeté aujourd'hui.
Ça a été rejeté. Ouais, bon, ouais, ben écoutez, ouais. Je vous explique quand même c'est le cadre temporel. C'est une thèse qui reconnaît comme terre revenant de droit aux Autochtones seulement. Celle, en fait, qu'ils occupaient au moment de la promulgation de la Constitution en 1988. Donc, ça, Mathieu, ben merci d'avoir bien lu.
Oui, ben aujourd'hui, c'est que c'était la Cour suprême et chaque juge votait un après l'autre et finalement, ça a duré 2 semaines, le temps que chacun vote.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Puis aujourd'hui, on a su que la majorité avait rejeté cette disposition-là de 1988, là, que les Autochtones pouvaient revendiquer des territoires sur lesquels ils étaient, entre autres avant la dictature.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Fait que, ben écoute, ça met la table pour toi, mon cher.
Ben merci, Marie-Ève. Écoute, moi, je vais parler un peu du Chili parce qu'il y a eu un gros anniversaire, une commémoration il y a une semaine, hein, le 50e
ben oui,
anniversaire du coup d'État.
Septembre 73.
Exactement. Donc, mais à travers tout ça, une nouvelle qui est un peu passée inaperçue, mais qui est intéressante, il a fallu 50 ans pour condamner les assassins du chanteur Victor Jara, qui est assez connu... un peu partout dans le monde. La Cour suprême de Santiago a rendu définitive les peines prononcées en 2018 contre 7 militaires qui avaient torturé et tué l'artiste après le coup d'État en 73. Ces militaires à la retraite, aujourd'hui âgés de 73 à 85 ans, purgeront des peines de 8 à 25 ans de détention. Libres jusqu'à présent, ils sont rentrés en prison le tout récemment.
Aussi bien dire qu'ils vont finir leur jour en prison.
Normalement. Trois autres accusés sont morts avant la fin de la procédure. Et le dernier, le chef de cette escouade, réfugié aux États-Unis, est suspendu à une demande d'extradition. Il est toujours aux États-Unis. Chanteur engagé proche du Parti communiste, Victor Jara est un symbole de l'unité populaire, la coalition de gauche qui avait porté au pouvoir en 1970, Salvador Allende. Il fut arrêté à Santiago après le putsch du 11 septembre et transféré comme 5000 autres suspects de sympathie de gauche à l'Estadio Chile, une salle de sport couverte transformée en centre de détention.
Ouais.
On a vu des films là-dessus. Le corps supplicié de l'artiste, les doigts broyés à coups de crosse de fusil, une balle dans la tête et 44 autres projectiles dans le corps, a été retrouvé quelques jours plus tard. Il avait alors 40 ans. Lors des différents procès, les 7 condamnés ont plaidé non coupables et assuré qu'ils n'ont pas participé à l'exécution de Jara. Plusieurs ont fait de belles carrières dans l'armée chilienne sous Pinochet et après la dictature. Mmh. C'est finalement quelqu'un qui les a dénoncés en 2009. Ils sont aussi condamnés pour un autre assassinat, celui de Litré Quiroga, 33 ans, co-détenu de Jara, à l'époque directeur national des prisons sous le régime de Allende. Reste à régler le cas de Pedro Barrientos, l'auteur matériel présumé de la mort du chanteur. Redoutable tertionnaire, surnommé par ses victimes le prince, il s'est enfui aux États-Unis en 88 au moment où Pinochet a perdu son référendum. Barrientos a vendu des voitures pendant 30 ans en Floride, où il était à l'abri des poursuites engagées par la justice chilienne grâce à sa nationalité américaine acquise par mariage. En juillet, un juge américain a révoqué sa citoyenneté américaine pour avoir menti sur son passé lors de ses démarches de naturalisation.
Okay, ouais.
Fait qu'il devrait être extradé dans les prochains mois.
Ouais.
Et au lendemain de sa condamnation définitive, un des 8 généraux, un des 8 militaires, s'est donné la mort juste avant son incarcération. Lorsque la police s'est rendue chez lui, il a sorti une arme et s'est tiré une balle dans la tête devant les policiers. Rien de moins.
Okay.
Il avait 85 ans, ce vieux débris-là. Donc, un de moins qui va finir ses jours en prison, Marie-Ève, pour répondre à ta question dans le groupe des militaires.
Mais bon, à retenir, c'est que c'est quand même un de moins.
Un de moins, tout à fait. Puis l'autre qui est en Floride, qui vend des voitures.
Ouais.
Sinon, ben, il y a eu des marches, des défilés, des manifs pour le 50e. Il y a eu des heurts à Santiago entre des policiers et des manifestants le 10 septembre, dimanche 10 septembre, la veille de l'anniversaire. Le président Gabriel Boric a participé à la marche en hommage aux victimes de la dictature. C'est le premier président chilien depuis la fin de la dictature qui va à une marche pour dénoncer la dictature.
Ah ouais, hein?
C'était encore très fort. Donc, il y avait à peu près entre 5 et 10 000 personnes donc, qui manifestaient donc à la veille du 11 septembre. Un peu insolite, sauf que je te dis, ça n'a pas rapport avec le 50e, mais plusieurs centaines de milliers de personnes habitant dans des quartiers informels au Chili sont menacées de prison et d'expulsion sans jugement.
Comme des gens de quartiers squattés, genre?
Exactement. Oui, okay. Suite à l'adoption d'une loi le 30 août dernier par le Parlement et le Sénat, ça prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour l'occupation pacifique d'un terrain ou d'un bâtiment par des sans-logis, ou jusqu'à 5 ans de prison en cas d'occupation avec effraction. Cette loi criminalise les mouvements sociaux qui organisent les populations des quartiers informels. Elle autorise l'expulsion par la police sans passer par un juge. Elle permet au propriétaire de se faire justice lui-même. C'est l'institution d'un délit permanent pour l'occupation d'un terrain ou d'un bâtiment. Le gouvernement Boric, minoritaire à la Chambre, a désormais 30 jours pour annuler cette loi par un veto présidentiel. Il y a eu des grosses mobilisations depuis 2 semaines là-dessus, là, au Chili. C'est des centaines de personnes.
On n'a pas du tout entendu parler de ça.
Absolument pas. Suggestion de lecture, Marie-Ève, le Journal des Alternatives, qui fait quand même des textes d'analyse. Un texte s'appelle « Analyse de la situation actuelle 50 ans après le coup », qui s'appelle « Chili, la longue marche de l'histoire », qui est assez intéressant sur les perspectives entre le passé et la situation actuelle au Chili.
Ouais.
C'est donc sur le Journal des Alternatives. Sur alter.québec. Sinon, ben, Guatemala, rapidement, Marie-Ève, le candidat surprise de l'élection présidentielle au Guatemala,
surprise!
Bernardo, le gagnant, on pourrait dire surprise, Bernardo Arevalo, a remporté le second et dernier tour du scrutin le 20 août dernier avec la promesse d'en finir avec la corruption.
Monsieur... C'est drôle, hein, comment il dit ça, tout ça, puis...
Tout ça, puis des fois,
non,
ouais.
Non,
mais on verra, peut-être dans son... on sait jamais. Monsieur Arevalo a obtenu 59% des voix contre 36% pour sa rivale, l'ancienne première dame Sandra Torres. Les deux candidats en liste se réclament tous deux de centre-gauche, mais si le premier cristallise les espoirs de changement dans un pays profondément inégalitaire, sa rivale était considérée comme la représentante du statu quo. Bon, c'est l'ancienne première dame, ça fait 4 fois qu'elle se présente, elle gagne jamais.
Ouais, c'est une libérale de gauche.
Ouais, c'est ça. Lui est un petit peu plus social-démocrate, on va dire.
Ouais.
L'ancienne épouse de l'ex-président de gauche, Alvaro Colom, bénéficiait du soutien silencieux du président sortant Alejandro Giammattei, dont le mandat a été marqué par la répression contre les magistrats et les journalistes qui dénonçaient la corruption. Elle avait aussi l'appui de la puissante élite économique alliée au gouvernement. La spectaculaire percée de Arevalo inquiète les élites économiques et politiques du pays, perçues comme un danger pour leurs intérêts, et le ministère public a multiplié les procédures contre lui. Sur avis du parquet, un juge avait ordonné le 12 juillet, donc un mois avant les élections, la suspension de son parti, qui s'appelle Semilla, pour des supposées irrégularités lors de sa création en 2017. La Cour constitutionnelle avait suspendu cette décision, mais la Cour suprême l'avait ramenée. La veille de l'élection, le procureur Curuchiche, sanctionné pour corruption par Washington d'ailleurs, avait annoncé de possibles arrestations à venir d'élus du parti Semilla du nouveau président. Ben oui, rien de moins. La communauté internationale et les analystes considèrent que les procédures du ministère public tentent d'écarter M. Arevalo du pouvoir.
Ça me semble assez clair, oui.
Merci, je vous le précise.
C'est pas très subtil, en tout cas, comme façon.
3 décennies après la fin de sa brutale guerre civile, le pays le plus peuplé d'Amérique centrale est enlisé dans la pauvreté, la violence, la corruption, ce qui pousse chaque année des milliers de Guatémaltèques à émigrer vers le nord.
Ouais.
Le président Arevalo, 2 semaines plus tard, a encore dénoncé la disqualification de son parti, qui est une décision critiquée autant par l'Union européenne, les États-Unis qu'un peu partout en Amérique latine. Bon, comme un projet de coup d'État là, contre lui, carrément. Finalement, le tribunal suprême électoral a temporairement levé les poursuites contre son parti, mais c'est vraiment pas réglé. Il prend le pouvoir seulement en janvier, officiellement.
Ah, okay.
Puis il y a 23 des élus de son parti qui ont été élus, mais eux ne pourraient pas siéger, parce que si le parti est illégal, lui pourrait, comme président, mais pas ses députés. En tout cas, c'est un peu... Mais il y a toujours quelques mois de délai entre l'élection puis l'entrée au
pouvoir. Oui, mais c'est parce que là, il y a le temps de se passer bien les affaires.
Hein? Ben oui, il y a le temps aussi de disparaître. Hein?
Ben oui.
Donc, M. Arevalo, en terminant, met fin à un cycle de 12 ans de gouvernement de droite corrompu dans l'un des 30 pays les plus corrompus au monde, selon l'ONG Transparency International. Fait Guatemala, on n'entend pas beaucoup parler, beaucoup pour les travailleurs migrants, les migrants à la frontière américaine, mais il se passe des choses intéressantes. On peut dire un autre pays qui a viré un petit peu à gauche là, récemment là, en Amérique latine.
Ben, c'était un très bon tour des actualités latino-américaines, Mathieu. Alors, quelques notes de musique, puis on vous revient. Avant de recéder mon micro à Mathieu, je mets la table pour toi tout le temps,
ben
Mathieu,
oui,
c'est ça qui arrive.
T'aimes ça quand je parle, Marie-Ève, je sais.
Bon.
Blah, blah, blah.
Des nouvelles, je vous donne des nouvelles du centre de détention pour personnes migrantes à Laval, où une trentaine d'entre elles ont déclenché une grève de la faim le 7 septembre pour protester contre le caractère arbitraire et injuste de leur détention. Le Devoir a pu s'entretenir avec certains d'entre eux. Ils affirment que sur les 65 détenus du centre, plus de la moitié ont signé. Il n'y en a pas beaucoup des détenus parce qu'on sait que c'est le nouveau centre de détention. Là, donc,
oui.
Donc, plus de la moitié ont signé la pétition adressée à l'Agence des services frontaliers et au ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, et dans laquelle ils demandent leur libération immédiate, mais aussi que les autorités leur offrent une solution de rechange, comme la surveillance électronique ou se rapporter en personne à un agent. D'ailleurs, en date du 25 août, c'est 12 600 personnes arrêtées au Canada et soumises à des contrôles d'immigration qui ont été libérées dans le cadre de ce genre de solution de rechange-là. Donc, ça veut dire que ça marche.
Oui.
Et vivent dans le pays là sous certaines conditions. Environ 230 personnes sont toutefois encore détenues là, dans des centres de surveillance fédéraux ou encore dans des prisons provinciales.
230 seulement qui restent?
C'est les chiffres que j'avais, ouais.
Okay.
Plusieurs disent être détenus depuis des mois sans avoir eu de date de renvoi. D'autres qui ont un dossier criminel déplorent qu'on les accuse de présenter un danger pour la société alors qu'ils ont déjà purgé leur peine depuis belle lurette. Par exemple, il y a Hugo Guzzelli, qui est un ancien employé d'Ubisoft, et lui est en attente de savoir s'il va être expulsé ou non du Canada. Il est détenu depuis la fin juin en raison d'un crime en lien avec le cannabis commis il y a 18 ans au Brésil.
Ah, oh, c'était un danger
ouais.
public, oui, oui.
Il dit qu'il a l'intention, en plus, de collaborer avec les autorités en cas de renvoi parce que ben il y a une fille de 1 an ici et qui est citoyenne canadienne, puis il veut pas compromettre ses chances de la revoir.
Oui.
Pivot a aussi pu s'entretenir avec certains détenus qui disent qu'on leur a retiré leur cellulaire, ce qui les isole et les prive encore plus de leur capacité à obtenir de l'aide. Parce que là, ça, si on leur permet de faire des appels locaux, mais là, elles peuvent quand même plus préparer leur arrivée dans le pays d'origine advenant leur déportation. Mm-hmm. Puis elles peuvent pas non plus faciliter le traitement de leur dossier pour raccourcir leur détention parce qu'elles peuvent pas non plus facilement interagir avec les institutions de leur pays d'origine. Les détenus ont depuis là suspendu la grève de la faim, mais leur lutte continue. Demain, vendredi 22 septembre, il y a une soirée qui est organisée par Solidarité sans frontières. C'est une soirée de artistique là, de rédaction de lettres et tout ça. Et ça a lieu à la place de la gare Jean-Talon à l'extérieur du métro Parc à Montréal de 16h à 18h. Donc, si vous voulez aller faire un tour. Et je termine sur les mots d'Aurélie Langteau qui a signé un texte d'opinion dans Le Devoir et qui résume pas mal ce que je pense. La grève de la faim en cours au CSIL doit certainement déboucher sur des gains à court terme pour rectifier des violations de droits clairs ici et maintenant dans des cas spécifiques. Cependant, à plus long terme, il faut marteler que la seule manière humaine de réformer la détention liée à l'immigration, c'est de l'abolir et de la substituer par un programme de régularisation pour tous et toutes. Alors voilà, c'était ma mise en bouche pour toi.
Ben oui, je vais finir d'ailleurs avec ce sujet-là, mon bloc immigration Québec-Canada. Ben, la semaine passée, le gouvernement Legault a profité de la rentrée parlementaire pour commencer à entendre les partis intéressés à se prononcer sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027. La consultation qui dure 3 semaines servira notamment à l'élaboration d'un plan qui devrait être dévoilé début novembre par la ministre d'Immigration, Christine Fréchette. La capacité d'accueil du Québec et le débat sur les seuils risquent d'attirer, de retenir l'attention encore une fois, comme en campagne électorale à l'automne dernier. Le gouvernement Legault étudie 2 scénarios, on en avait parlé, soit rester à 50 000 par année ou encore relever cette limite à 60 000 avec en plus les étudiants étrangers du PEC, là, du programme de l'expérience québécoise.
Oui, c'est ça, ça, elle est 60 000 exclus.
C'est ça, en plus dans les deux cas. Ouais. L'immigration temporaire devrait aussi faire l'objet de discussion. Le Québec hébergeant actuellement jusqu'à 350 000 résidents non permanents, un sommet historique. Mm. La ministre Fréchette a pour sa part confirmé les informations selon lesquelles le gouvernement étudie sérieusement l'idée d'imposer de nouvelles exigences linguistiques aux immigrants temporaires pour éviter que leur nombre croissant contribue à l'anglicisation, entre guillemets, du Québec. Mais là, on parle entre autres de travailleurs migrants.
Ben
donc,
oui.
À suivre. Sinon, des chiffres qui viennent vraiment mettre à mal les prétentions de la CAQ, c'est des chiffres sortis dans les dernières semaines. Les seuils d'immigration proposés par le gouvernement Legault menacent de faire exploser les délais des futurs résidents permanents dans la catégorie humanitaire. Le nombre de dossiers est tel qu'au rythme où vont les admissions au Québec, il faudrait près de 10 ans à un réfugié reconnu et à ses personnes proches à charge pour obtenir la résidence. Mm. Selon les données d'Immigration Canada, quelque 30 000 réfugiés reconnus vivant au Québec attendent ce précieux sésame en date du 8 août. Or, la planification...
C'est énorme comme chiffre, là.
Oui, après, attends, j'en ai d'autres. La planification pluriannuelle soumise par la ministre pour les consultations propose d'accueillir pour chacune des quatre prochaines années environ 3 550 personnes dans la catégorie réfugiés reconnus ici. Cette catégorie comprend les demandeurs d'asile arrivés au Québec, notamment par voie terrestre, maritime et aérienne. Donc, 30 000, on en veut 3 000 par année, puis ça continue à s'accumuler. Mm. Stéphane Réchol, de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes, a déclaré « Mieux vaut pour ces personnes déménager en Ontario, tant qu'à faire. Hein? » c'est comme...
Message est clair.
Ben oui, écoute. Les programmes spéciaux fédéraux, style ukrainien, style ange gardien, selon les plus récentes données, près de 12 000 personnes, dont les dossiers ont été approuvés par Ottawa, attendent la résidence permanente au Québec. Or, dans les scénarios soumis à la consultation publique, Mme Fréchette propose de garder intact sa cible de 450 admissions par année dans cette catégorie dite humanitaire ou autre immigrant. Mm-hmm. Ces faibles seuils entraînent plus précisément une attente de 26 ans avant l'obtention du précieux sésame, et c'est sans compter que de nouveaux dossiers s'ajoutent constamment sur la liste. Avec 12 000 personnes en attente, 450 par année acceptées, le nombre de dossiers du Québec constitue à lui seul le tiers de celui de tout le Canada, où 33 000 immigrants acceptés pour des raisons humanitaires sont en attente. Parmi les immigrants qui devront subir ces longs délais, on parle peut-être de 26 ans, figurent les Ukrainiens installés au Québec, qui sont admissibles à partir du 1er octobre au nouveau programme fédéral leur permettant de demander la résidence. Mm. Les cibles dans la catégorie haute immigrants ont toujours été les plus basses en comparaison avec immigration économique, regroupement familial et réfugiés. Elles ont même diminué à partir de 2020, passant d'une moyenne de 700 admissions à une moyenne de 450, un nombre qui ne changerait pas selon les prévisions du plan au Québec jusqu'en 2027. Et dernier chiffre là-dessus, les longs délais pour parrainer l'immigration d'un conjoint vivant à l'étranger sont bel et bien causé par les cibles de Québec dans la catégorie du regroupement familial qui sont plus basses qu'ailleurs au Canada. S'il faut patienter 14 mois dans le reste du pays, l'attente s'étire maintenant jusqu'à 24 mois au Québec. Il y a 36 800 personnes en attente d'une résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial. C'est Québec qui fixe le nombre, comme on sait. Le Canada doit s'ajuster. Et pour l'année en cours, c'est 10 600 et ça va rester comme ça pour les prochaines années. Mmh. Et il y a 38 000 personnes juste maintenant en attente. Je voulais terminer, Marie-Ève, avec un autre sujet dont on t'en a parlé un peu tantôt.
Tu parles des détentions?
Non, des travailleurs étrangers, mais c'est toujours relié. Un article est sorti au début septembre. Je vais vous lire l'introduction. Les programmes de travailleurs étrangers temporaires du Canada sont un terrain propice aux formes contemporaines d'esclavage. Mais en garde, Tomoya Obokata, le rapporteur spécial des Nations Unies chargé d'enquêter sur cette situation un peu partout dans le monde. Je le cite, « Je suis profondément troublé par les récits d'exploitation d'abus dont m'ont fait part des travailleurs migrants », a déclaré M. Obokata à l'issue d'une visite qu'il a menée d'Ottawa à Vancouver en passant par Moncton, Toronto, Montréal, du 23 août au 6 septembre dernier. M. Obokata recommande aux autorités canadiennes de régulariser le statut des travailleurs migrants étrangers et de mettre fin au système fermé des permis de travail. Le Canada doit permettre à tous les migrants meilleur accès à les résidences permanentes afin d'éviter que les abus ne se reproduisent. Donc, il y a beaucoup de rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui viennent visiter le Canada ces temps-ci, puis les rapports sont assez difficiles.
Accablants, oui, c'est ça.
Puis on finit en disant qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté dans 15 villes partout au Canada samedi dernier, 17 septembre, à l'occasion de la journée organisée par le Migrant Rights Network. Il y a eu des manifs au Royaume-Uni, en Espagne et en France. J'ai vu les images qui dénonçaient la situation des migrants au Canada. À Montréal, des centaines de personnes devant les bureaux du nouveau ministre Mark Miller. Et là, beaucoup de gens se posent la question, changement de ministre, mais le programme est toujours pas là.
Ouais, non, c'est ça.
Ça fait depuis un an et demi qu'il est promis. En mars dernier, plusieurs groupes ont dit, ça s'en vient cet été, on a parlé au ministre, au gouvernement, puis il se passe absolument rien.
Non.
Fait qu'on se demande vraiment c'est quoi le problème actuellement, mais nouveau ministre ne veut pas dire que ça bouge plus.
Ben non.
Les manifs vont continuer, Marie-Ève.
Oui,
tant mieux. Même en Europe, ça a l'air.
Ben oui, on sera dans la rue eux.
Exactement.
Alors, on va aller en musique avec la pièce Tapoué de Boogie the Beat, qui est une collaboration avec Dresus et PG Vegas. Je vous donne les détails au retour. Boogie got me in this thing, though. Swipe beat, got me jumping like a kango. Might be in the places that you can't go. Might see a couple haters with a face. Pow wow, like a gun, you hear the ground rumble. Sounds of the drum type teams you can't run. Hiyaki on the rise, today you want me. New Emily
linking up with Anishinaabe. From the crew tribe, Nish not babe, no gee-ha. Need some fresh mocks for my Levi's. I can feel it in the drum, make the heat rise. Rep mine for millennium. They don't understand that we intelligent. Super fitted up, yup, got the militant. When I show up, all shit, there go again. Still here on the warpath. Big grand for the spirit, got my whole back. From the birth to the toe tag. Keep the bringing spirit back from the old days. Means more than this rap shit. Fall back, bad vibes, give me bad dreams. Old pain in my bloodstream. Let my man boogie show you what the drum is.
Let him show him what the drum mean. Let him show you what the drum mean. Let him show you what the drum mean. Let my man boogie show you what the drum mean. Let him show you what the drum mean. Let him show you what the drum mean. Let him show you what the drum mean.
On vient d'entendre le DJ Anishinaabe Boogie the Beat et la pièce Tapoué, qui veut dire vérité ou c'est ainsi. Moi, au début, je voulais le traduire par c'est ça qui est ça, mais en langue crie, et qui est une collaboration, comme je le disais, là, avec le rappeur crie et Anishinaabe Dresus et le chanteur d'origine Yaqui, qui vient, c'est un peuple autochtone du Mexique. Donc, avec le chanteur d'origine Yaqui, PG Vegas. Elle est tirée donc du plus récent album de Boogie the Beat Cousins, qui est paru en mai dernier. Ce cher Boogie the Beat a déjà notamment collaboré avec The Hallucination, anciennement A Tribe Called Red. Mm-hmm. Avant de retrouver Simon pour son bloc d'actualité autochtone, je vais lui mettre la table aussi parce que
tu,
je suis
mets
une
beaucoup
période...
la table ce soir.
Mais oui, je suis serviable de même, moi. Mais là, on va se tourner vers le Japon cette fois-ci, plus particulièrement l'île d'Okinawa, où les Okinawaïens, qui sont reconnus par l'ONU comme peuple autochtone, sont victimes d'une double colonisation. C'est que, vous le savez peut-être, l'île d'Okinawa a été annexée par le Japon au 19e siècle, mais on oublie souvent qu'elle est aussi occupée par l'armée américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui explique que la population de l'île a le sentiment d'être gouvernée par deux empires et ce qui entraîne aussi de nombreux débats autour de la démilitarisation, de l'indépendance et de la réappropriation de l'identité autochtone. La vaste majorité des Okinawaïens ne se considèrent pas japonais, Mais ils sont aussi nombreux quand même à hésiter à se qualifier d'autochtones, puisque, selon la militante et professeure à l'Université chrétienne d'Okinawa, Chihiro Kumin, le terme okinawaïen en japonais a un gros bagage culturel, politique et forcément colonial. Par exemple, pour les générations plus anciennes, ben, ça signifie être un citoyen de seconde zone, être arriéré ou pas moderne. L'île d'Okinawa fait partie de l'archipel de Ryukyu, et qui est située dans le Pacifique entre le Japon et Taïwan. Elle était gouvernée par le royaume de Ryukyu avant d'être annexée en 1879 par le Japon, qui a immédiatement banni l'usage des langues Ryukyuan et qui a instauré des politiques d'assimilation, exactement comme à peu près tous les empires coloniaux ont fait partout. Et encore aujourd'hui, l'éducation à Okinawa est gérée par le gouvernement central japonais et les 6 langues Ryukyuan ne sont pas enseignées. Résultat, ben, le nombre de locuteurs est en constant déclin. En 2022, selon un sondage réalisé par le gouvernement d'Okinawa, seulement 28 % de la population utilisait une des langues autochtones pour plus que de simples salutations, par exemple. En 2013, c'était 58 % de la population, donc ça a beaucoup décliné en 10 ans. L'UNESCO estime d'ailleurs que ces langues-là risquent de disparaître dès 2050. Il y a le militant et musicien Rob Kajirawara qui a fondé en 2018 le Peace for Okinawa Coalition, qui promeut la culture okinawaïenne et l'indépendance de l'île. Lui, ben, il doit utiliser le japonais, la langue coloniale imposée, pour rallier et rejoindre la plus jeune génération. Donc, pour en apprendre plus quand même sur cette histoire peu connue d'Okinawa, je vous invite à aller lire le super reportage que Radio-Canada a publié le 6 septembre dans la section « Espace autochtone » et qui s'intitule « Au Japon, les autochtones d'Okinawa victimes d'une double colonisation ». Alors, sur ce, on revient, mais en sol canadien avec Simon.
Ben en vol aussi, parce qu'il y a quand même un océan complet à traverser. Écoutez, ça fait un mois et demi, je pense qu'on n'a pas parlé d'enjeux autochtones à l'émission. Alors, comme on dit, ça s'est vraiment accumulé. J'ai fait des choix. J'ai choisi de me concentrer sur certains enjeux liés au territoire et aux ressources naturelles, surtout. J'aurais une petite citation raciste aussi, parce que ça fait longtemps, ça aussi, qu'on n'en a pas eu.
Ouais.
D'abord, peut-être souligner qu'ici même, à l'UQAM, il y a de plus en plus de ressources, de lieux, d'événements dédiés à la clientèle autochtone. Il y avait le 6 septembre dernier le tout premier pow-wow de l'histoire de l'UQAM. Donc, pour accueillir, si on veut, les 88 étudiants UQAMiens, UQAMiennes qui s'identifient comme autochtones. Les universités francophones ont quelques années de retard sur leurs équivalents anglophones, mais peu importe si vous connaissez ou êtes vous-même une personne autochtone, métisse ou inuit, sachez qu'il y a quelques services pour vous. Informez-vous, parlez-en à vos amis. C'est le BIRÉ, le Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante, qui est en charge des différentes activités, qui a aussi ouvert, il y a 5 ans, le NISCA, un local ici au pavillon Hubert-Aquin, qui est d'abord un lieu de socialisation. Le numéro du local, je vais vraiment dans les annonces publiques très, très locales.
Ben non, mais c'est correct, ça.
AM.
On s'adresse quand même à la communauté ukamienne.
Oui, j'imagine, une bonne partie de l'Audima est ukamien. Donc, le local, c'est le AM815. Pour faire activer votre carte magnétique pour y accéder, il faut écrire à étudiant au pluriel, trait d'union autochtone au pluriel, acommercialukam.ca. Je tiens aussi à souligner la nomination de l'artiste inoue Joséphine Bacon comme aînée en résidence de l'UQAM qui va participer tout au long de 2023-2024 à des activités artistiques et collaborer à des projets académiques. Donc après ces petites annonces, je vous parle pour la première et dernière fois de l'ancien maire de South Bruce Peninsula en Ontario, Gary Michie, qui suite à un investissement fédéral pour la mise à niveau d'une usine de traitement des eaux dans la communauté Chippewas of Nawash, a dit en gros...
Ça sent la citation raciste.
Oui, ben c'est ça, je ne l'ai pas entendu, donc je fais une sorte d'imitation. Donc, regardez leur maison, ils sont sales, ils ne savent pas s'occuper d'eux autres, c'est de l'argent gaspillé par les fenêtres, il va tout falloir reconstruire dans 20 ans. Ses commentaires un peu méprisants ont été enregistrés et peu de temps après leur diffusion, il a rapidement démissionné. Donc, bye-bye!
Ciao, bye!
Bye-bye, Monsieur Michi! Maintenant, pour le restant de ce segment d'actualité autochtone, on s'en va dans l'Ouest. On va complètement quitter le Québec et l'Ontario. J'aurais aimé vous parler, entre autres, de Wendake, où le sort d'une aire protégée va mériter qu'on s'y attarde dans les prochaines semaines, ou encore du blocage routier à Girardville, au nord du lac Saint-Jean. Beaucoup d'opposition à résolu produits forestiers et leurs pratiques de déboisement et des enjeux de protection du territoire. Mais ça a été quand même relativement couvert par les médias généralistes, donc on s'en va en Saskatchewan. Entente majeure qui vient tout juste fin août d'être conclue entre le fédéral et la Première Nation Musqueam-Petong, 150 millions versés pour compenser la dépossession de 7500 hectares de terre en 1909. Interminable bataille juridique entamée en 1990, donc 33 ans d'attente. Certaines personnes qui avaient milité pour cette réparation sont beaucoup plus âgées aujourd'hui, dans certains cas même décédées malheureusement. Ouais. Toujours en Saskatchewan, la Première Nation, Kinistin, elle, ça vient aussi d'être annoncé, elle va recevoir 56 millions du fédéral en indemnisation agricole, une histoire de non-respect de traité. Toujours en Saskatchewan, ça déboule les petites nouvelles. Un très, très gros chapitre juridique qui est sur le point de s'ouvrir, c'est la FSIN, la Fédération des Nations Autochtones Souveraines de la Saskatchewan, qui a annoncé il y a 3 semaines qu'elle va contester la NRTA, Natural Resources Transfer Agreement, ou en français la Convention sur le transfert des ressources naturelles, adoptée en 1930 et qui donne encore aujourd'hui au gouvernement provincial de Regina le contrôle exclusif des terres de la couronne et des ressources naturelles en excluant les Premières Nations à qui on permettait autrefois de continuer à chasser et pêcher. C'était tout. Sous certaines conditions et souvent dans des écosystèmes massacrés. Donc, aller pêcher dans nos eaux contaminées par les mines.
Oui.
La FSIN juge que cette convention a toujours été illégale, qu'elle n'a jamais respecté ni les traités, ni même la Constitution canadienne, mais qu'elle avait été facilement adoptée parce qu'à l'époque, on interdisait aux Autochtones d'avoir recours à un avocat. Je ne sais pas si on va assister vivant à la conclusion de cette bataille qui concerne des décennies d'exploitation minière, forestière, énergétique, qui ont impliqué tous les paliers possibles de gouvernement, des centaines d'entreprises, des milliards et des milliards de profits dans le pétrole, la potasse, l'uranium, entre autres, et dont on a forcément exclu, pas une scène pour les Premières Nations comme la Convention le prévoyait. Ultimement, ça concerne, je dirais pas nécessairement l'ensemble du territoire canadien, mais probablement aussi l'Alberta et le Manitoba, qui ont encore aujourd'hui des lois sur les ressources naturelles très semblables à celles de la Saskatchewan. Pour l'instant, cette poursuite, c'est seulement une initiative de la FSIN au nom de ses membres sur le territoire saskatchewanais. On verra ce qui se passe dans les provinces voisines, mais je ne serais pas surpris qu'on annonce bientôt des contestations judiciaires du même ordre qui pourraient peut-être impliquer les pétrolières Alberta aussi. Il y en a en Saskatchewan, mais plus en Alberta. On juge d'ailleurs que le contexte actuel est relativement urgent et qu'il faut invalider cette convention sur le transfert des ressources naturelles le plus rapidement possible, puisque là, on se lance, comme partout dans le monde, tête première dans l'exploitation des matériaux critiques. Tout ce qui entre dans la fabrication des panneaux solaires, des piles électriques, lithium, graphite, cobalt, dont les sous-sols canadiens sont remplis.
Ouais.
Là, mon traditionnel, est-ce qu'il me reste un peu de temps?
Pas mal. T'es correct, Simon.
OK, une autre manchette.
Il te reste un bon 2 minutes.
OK, bon, parfait, j'ai le temps de pour tout vous déballer. Un phénomène qu'on ne retrouve pas beaucoup au Québec, mais qui existe depuis au moins 35 ans à Saskatchewan. Des petits territoires autochtones assez discrets, parfois pas identifiés à vocation, surtout commerciale, qu'on appelle micro-réserves ou réserves urbaines. Parce que le fédéral, suite à des négociations selon un cadre assez particulier, consent à donner à ces territoires-là un statut spécial de réserve. On les retrouve en bordure des villes ou carrément à l'intérieur de certaines villes. Ce sont des petites enclaves composées d'une succession de lots qui ont été rachetés par les communautés autochtones, surtout pour y ouvrir des petits commerces le long d'axes routiers stratégiques, de l'essence, de l'artisanat, des petites épiceries. Donc finalement, pour faire de l'argent et les profits sont directement réinjectés là où se trouve le cœur des communautés, donc souvent beaucoup plus loin des grands centres dans les réserves dites historiques. Seulement dans la région de Saskatoon, on trouve pas moins de 9 de ces micro-réserves autochtones. Dans l'ensemble du Canada, il y en aurait à peu près 100. Je parlais des profits réinjectés dans la communauté, mais parmi les objectifs, il y a aussi celui de créer de l'emploi pour les membres de la communauté, à la fois dans les détaillants, chez les fournisseurs qui vont les alimenter. Ça sert aussi à stimuler la création d'entreprises et à former sur la création d'entreprises. ça ne nuit pas à l'autonomie des communautés par rapport aux grandes entreprises, aux multinationales et même à l'État. Et finalement, ça contribue à maintenir un écosystème complet de la production, transformation, transport, vente des produits qui, à plusieurs niveaux, conviennent mieux aux cultures locales. Plus de traçabilité aussi, ouais. Plus de possibilités de retrouver des produits traditionnels, la sauge, le foin d'odeur, des produits de la chasse, de l'artisanat, ce qui peut permettre de faire revivre certaines pratiques qui avaient été abandonnées.
Ouais.
Et ça entre quand même un peu dans la logique du land back, de réappropriation de son territoire, de sa culture, de son développement. Bientôt au Québec, je ne sais pas, mais aux dernières nouvelles, il n'y en a toujours aucune de ces micro-réserves ou réserves urbaines dans la grosse province. Sinon, ben, je termine ça en rappelant que le 30 septembre, c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui vise surtout à rappeler le souvenir de toutes les personnes, femmes et enfants en particulier, disparues et assassinées, notamment les pensionnaires autochtones.
Ouais.
Voilà, c'est tout pour mes actualités autochtones. J'aurais pu vous parler pendant une heure au moins, je pense.
Ben écoute, on refera un autre bloc autochtone à la prochaine émission. On fera ça plus régulièrement.
Parfait.
Alors, on va quelques notes de casserole et puis on vous revient. Alors, à mettre à votre agenda dans les prochains jours, prochaines semaines, mardi prochain, le 26 septembre, l'UPOP, l'Université populaire, dévoile sa programmation 2023-2024 qui sera placée sous le signe de la résistance et de l'engagement avec le slogan « C'est pas parce qu'on est fini qu'on va s'arrêter ».
Ah, c'est bien, c'est pas pire ça.
Je trouve ça vraiment
bon. Je pense que je le comprends, en tout cas.
Ben, c'est pas parce que l'apocalypse s'en vient qu'on continuera pas de lutter puis qu'on va...
Merci, Marie.
L'événement a lieu de 19h à 21h au Café Les Oubliettes. C'est sur la rue Bellechasse, tout près du métro Rosemont à Montréal. On vous vendra pas le punch de la programmation. On va attendre que l'événement se tienne. On va vous revenir à la prochaine émission, peut-être avec nos suggestions de session de l'UPOP à ne pas manquer. Ensuite, le vendredi 29 septembre, sortez vos pancartes et vos casseroles pour la manif de la rage climatique qui part du monument Georges-Étienne Cartier au pied du Mont-Royal sur l'avenue du Parc à 14h. C'est organisé par Rage Climatique, une coalition anticapitaliste qui est née pas mal des suites là, des mobilisations contre la conférence de la COP15 à Montréal en 2022. Je vous lis un extrait de l'appel. Les arbres croulent sous le poids du verglas en mars. Les forêts brûlent en mai. Les rivières débordent en juillet. L'air est irrespirable depuis des semaines. Et les seules réponses que nous offrent les gouvernements sont d'agrandir les autoroutes et d'asphalter les rares espaces encore verts de nos villes pour permettre à plus de conteneurs remplis de millions de gadgets de plastique inutiles de transiger jusqu'aux portes de la petite bourgeoisie blasée. Devant l'inaction cynique et les fausses promesses, nous devons agir face à la catastrophe en cours.
Mais les voitures électriques, ça va aider? En tout cas, non, je te laisse continuer.
S'ils sont pas en plastique, peut-être.
OK.
Et finalement, une activité plus artistique cette fois-ci, une exposition multimédia sur la Palestine qui est présentée au MAI, Montréal Art Interculturel, qui est située sur la rue Jeanne-Mance au sud de l'avenue des Pins à Montréal. L'exposition « Driving in Palestine » présente les œuvres de l'artiste montréalaise d'origine palestinienne Rehab Zazal, qui traite des différents effets dévastateurs de la violence coloniale sur le peuple palestinien. Les images qui sont présentées à l'aide de différents médiums ont été captées à partir de véhicules en mouvement sur les routes palestiniennes en 2010 et 2020, avec l'objectif de mettre en lumière le régime israélien de ségrégation, de confinement, de restrictions et de surveillance des libertés de mouvement qui sévit en Cisjordanie occupée. Et ça, ben, c'est donc au mai, rue Jeanne-Mance, au sud de l'avenue des Pins. C'est jusqu'au 21 octobre. C'est déjà la fin des apatrides anonymes.
On est émotifs aujourd'hui.
Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes FM aussi du 107,9 de Radio Victoria le dimanche à 14h et le mercredi à 13h. Vous pouvez aussi le faire évidemment en balado. Vous pouvez taper l'intégrale des Apatrides anonymes en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre propre site internet apatridesanonymes.info, tout cela au pluriel, mais pas info. Écrivez-nous à apatridesanonymes@resist.ca et suivez notre page
FB,
on va dire.
Je l'ai dit. Hey, merci Mathieu et Simon, à la fois pour vos analyses toujours pertinentes des événements et enjeux qui ont marqué ou pas les actualités, parce que vous nous parlez aussi de choses dont on n'entend pas parler.
Qui ont passé sous le tapis.
Oui, c'est ça. Merci.
Un petit peu de côté, oui.
Oui, voilà. Puis merci aussi pour votre ténacité à la console aujourd'hui.
À la console, c'était pas facile encore une fois.
C'était un sport de combat.
D'ailleurs, la console était sur la drogue, je pense, aujourd'hui.
Oui, et d'ailleurs, on voulait dire que notre dernière émission qu'on avait enregistrée un samedi, ça a été long avant qu'elle arrive sur notre site et sur la page Facebook parce qu'il y avait eu des problèmes d'enregistrement qu'on a dû refaire.
Ouais.
Mais on tient à livrer une émission par deux semaines de qualité.
Oui, hein? Fait qu'on a refait le montage pour vous. Ouais. Ça, c'était de la dernière émission.
Et merci à toi, Marie-Ève, on ne dit pas merci.
Pour l'animation, oui.
Ah, mais moi...
La recherche, ténacité toute, là.
Le contenu.
Pour avoir mis la table.
Oui.
Mais vous ferez la vaisselle.
OK. Et que t'es dynamique, t'as de la répartie, j'aime ça.
On va se laisser en musique avec le collectif de free jazz américain Irreversible Entanglements, qui vient de sortir un nouvel album. Ils sont assez prolifiques ces temps-ci.
À chaque année, je pense, hein? Ouais.
Donc, un nouvel album intitulé « Protect Your Light ». C'est en 17e position du palmarès international Choc, soit juste une position en dessous de le groupe Boogie, de tantôt, le Move BHC.
Move BHC, oui.
Oui, ben en dessous, non, en fait au-dessus, parce qu'en 17e, plus tu montes, oui, c'est ça.
OK.
Excusez. Bon. Donc, le quintet sera en tournée européenne en novembre. J'ai vu ça sur leur site. On espère vivement qu'on pourra les voir de ce côté-ci de l'Atlantique prochainement. Et donc, on va écouter la pièce « Our Land Back ». Et on va vous souhaiter également une bonne
très belle soirée.
Soirée
hein? Merci d'avoir été à l'écoute.
Bonne soirée.
Bye.
weaving past futures and not yet threads of a story. Ending in the present, always late arriving. Who holds all stories? Who takes our land? Who knows what happened? Who knows what happened in South Carolina, in New York, in Palestine, in Iran? Who knows what happened? Hosts ponder chaos, a light at the end of what can't be illuminated. No stars under our feet, a revolving core of fire coming back. Who knows the story? Who knows what happened? In Ethiopia. In Nigeria. In the so-called Middle East, who knows what happened? Who holds our stories? Who took our land, land back? We want our land back. Eyes closed, peace mine, I forecast. Storm coming, casino dry, ice smoke. The tanks go by, tossing coins at the dead. Same side of the coin. We are on the same side of the coin. Clueless on sale, outdated and made of plastic. Well, at least we've been to the moon. At least we are starting to remember the stories.